RCF.
Emmanuel Falk, nous continuons à parler avec vous du mystère pascal avec votre approche de philosophe. Je rappelle que votre Tridium philosophique est paru aux éditions du Cerf et il s'appuie sur l'expérience de nos corps finis, des corps appelés à être divinisés. Puisque nous disions que tout le mystère finalement du christianisme, c'est de consentir à la finitude pour être divinisé. Alors, on vient, après avoir parlé de l'épreuve de la mort, de la souffrance, il y a la résurrection. On disait révolution pour le monde, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la résurrection ?
Il y a plusieurs points dans votre question. Déjà, il y a un présupposé, il y a la résurrection, qui n'est pas un présupposé pour tout le monde. Et j'espère que tous vos auditeurs ne vivent pas que dans ce présupposé.
Mais justement, parce que vous intéressez...
Les chrétiens.
Vous intéressez beaucoup aux personnes athées.
Voilà.
Vous dites d'ailleurs que ce n'est plus forcément un athéisme de combat comme ça l'a été au 19e siècle ou au 20e siècle, mais c'est plutôt du délaissement aujourd'hui.
Voilà.
On est athée parce que ça... Voilà, c'est...
Si vous voulez, je pense à ce livre d'Henri de Lubac, juste après la guerre, « Y a-t-il un drame de l'humanisme athée ?» Henri de Lubac, c'est une démarche magnifique, hein, qui consistait à dire, avant de rejeter l'athéisme, on doit le comprendre de l'intérieur. Mais après, pour le rejeter, c'est un peu comme la somme contre les gentils de Thomas d'Aquin.
Oui, c'est les comprendre, mais pour mieux les...
Pour mieux dire que c'est pas là qu'il faut aller. Alors c'est le positivisme d'Auguste Comte, il y a la psychanalyse de Freud, il y a la mort de Diogenes, etc. Alors, c'est très intéressant de voir que quelques années plus tard, vous voyez, c'est 45, en 53, Maurice Merleau-Ponty, je vous donne ce philosophe parce que Maurice Merleau-Ponty, pour moi, il représente un petit peu l'état de bien de nos contemporains aujourd'hui. Il venait d'une bonne famille chrétienne catholique, voilà. Et puis il est arrivé à l'école normale supérieure, puis il a abandonné tout ça. Et puis il prononce une leçon au Collège de France en 1953, qui s'appelle l'éloge de la philosophie. Et puis il dit la chose suivante, c'est un peu compliqué, pourquoi tout non-théisme est-il toujours interprété comme un athéisme ou un antithéisme? Ça veut dire, pourquoi quelqu'un qui parle pas de Dieu serait forcément contre Dieu? Et si vous voulez, il y a cette espèce, et c'est de plus en plus étrange, ça m'apparaît de plus en plus clair, il y a cette espèce de conviction des chrétiens qui consiste à croire que quelqu'un qui n'est pas pour Dieu est contre Dieu. Mais on peut être sans Dieu sans être contre Dieu. Et on peut d'autant plus être sans Dieu sans être contre Dieu que Dieu s'est fait homme. Donc d'une certaine manière, moi, ma thèse dans Métamorphose d'études, c'est de dire, écoutez, il n'y a pas de drame de l'humanisme athée, pas plus qu'il n'y a un petit reste d'Israël qui sait exactement ce qu'il faut faire et puis le reste du monde, ce qui serait une forme de manichéisme, mais il s'agit de comprendre que la finitude, c'est la dimension non seulement des non-croyants, mais la dimension aussi de notre croyance, parce que nous sommes dans la finitude, c'est-à-dire dans l'horizon de la mort dont nous avons parlé.
Donc nous partageons tous cette finitude.
Voilà.
Bon, après, il y a quand même la question de la résurrection.
Après, il y a la résurrection. Alors, la résurrection, d'abord, je dirais, elle est donnée. C'est pas notre vocation de rendre le christianisme croyable. Notre vocation, c'est de le rendre crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre vocation, c'est de dire, écoutez, le christianisme, on peut encore y croire. Il y a même encore des raisons d'y croire. Maintenant, seul Dieu donne la foi. Donc moi, je n'ai jamais attendu de mes contemporains qui croient comme moi. Alors ensuite, si j'accepte de dire qu'il y a la résurrection, je dois comprendre pourquoi il y a la résurrection. Et s'il y a la résurrection, à mes yeux, c'est justement parce que le Fils a pris sur lui le poids de notre corps, le poids de notre finitude, et que d'une certaine manière, le Père ne veut pas faire de la mort le dernier mot de notre existence. Si vous voulez, si je me prononce en philosophe, la mort est le dernier mot de mon existence. Et j'ai aucune raison philosophiquement de penser qu'il y a encore quelque chose après la mort. D'ailleurs, je ne le pense pas.
Alors, c'est le théologien, du coup, qui prend le relais.
C'est le théologien qui prend le relais. Et moi, alors, dans un livre qui s'appelle « Passer le Rubicon », j'ai très bien expliqué qu'il n'y a pas de raison qu'un philosophe ne puisse pas être aussi théologien, puisque j'ai fait des études de philosophie et de théologie. Alors, je dis « le théologien prend le relais », et je ne vais pas faire une apologétique pour vous dire « croyez ». Ce à quoi je crois, vous devez être comme moi. Je vais simplement dire ce à quoi je crois est crédible. Et qu'est-ce qui est crédible? Eh bien, ce qui est crédible, c'est que si j'ai fait l'expérience de la naissance, je peux faire l'expérience de la renaissance. Je peux comprendre ce qu'est la résurrection si je comprends exactement ce que le Christ dit à Nicodème. Vous savez, ce qui est né de la chair est chair. ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors c'est vrai que quand on comprend rien à ce texte de Nicodème, et souvent on comprend pas très bien ce texte de Nicodème, on dit, bon Nicodème, toi tu n'as rien compris à ce que je te raconte, moi je te dis qu'il y a ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, tu me demandes comment un homme peut-il de nouveau entrer dans le ventre de sa mère et naître, t'as rien compris du tout. Mais au contraire, il faut pas entendre cette formule, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, de façon oppositionnelle. Il y a la chair d'un côté et l'esprit de l'autre. Mais il faut comprendre de façon analogique. Qu'est-ce que vient dire le Christ à Nicodème ? Nicodème, de même que ce qui est né de la chair est chair, de même ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Nicodème, il va falloir que tu réfléchisses à ce que veut dire être dans le ventre de sa mère et naître, pour comprendre ce que veut dire être dans le ventre de l'Église et renaître. Et si je vous dis le ventre de l'Église, parce que c'est une formule de saint Augustin, hein, qu'est-ce que c'est qu'être dans les entrailles de l'Église et renaître ? Donc il faut développer ce qu'on appelle une phénoménologie, une description de la naissance, pour développer une théologie de la renaissance. De la renaissance voilà. Et donc ce point me paraît absolument capital, parce que le mot « résurrection », qui veut dire « se lever, être debout », ne peut pas être pensé indépendamment d'une expérience.
Et vous, vous prenez l'expérience de la naissance.
Et moi, je prends l'expérience de la naissance.
Ben oui, mais c'est compliqué parce que la naissance, on s'en souvient pas.
Eh bien, exactement, mais vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que vous croyez qu'on se souvient du jour où on est converti ? Le propre de la naissance, c'est que je suis toujours en retard sur elle. Vous pouvez jamais parler de votre naissance au présent. Vous pouvez pas dire « je nais ». Vous dites « je suis né ». Et puis le deuxième point, c'est que vous y étiez à votre naissance ? Parce que vous n'avez aucun souvenir de votre naissance. Bien, c'est pareil. Il faut quelqu'un pour attester de ma naissance. Vous voyez, un père, quelqu'un qui veut dire « il était là ». Il faut une mère pour donner la chair. Donc, si vous voulez, cette expérience de naissance est magnifique parce que le retard que j'ai sur ma naissance fait que, d'une certaine manière, je suis toujours en retard sur ma conversion. Et puis, une naissance, c'est aussi un corps. Qu'est-ce que c'est que naître dans son corps ? Je crois que naître dans son corps, c'est d'abord recevoir quelque chose, non pas qu'on ait, mais qu'on a. Et je crois que toute la vie consiste à passer du corps que j'ai au corps que je suis, à habiter mon corps. Et peut-être que la résurrection du corps du Christ, c'est une manière de vivre son corps. Et c'est comme ça qu'il apparaît à ses disciples.
Emmanuel Falk, vous appuyez beaucoup sur saint Paul pour parler de la résurrection et notamment de la manière dont Paul parle du corps. La qualité d'être de ce corps, son éclat, c'est ça l'important, vous dites.
Oui. Pour bien comprendre Paul, il faut comprendre que Paul, c'est un penseur du corps. Et que, d'une certaine manière, Paul n'est pas du tout quelqu'un qui rejette le corps. Et quand il oppose le corps et l'esprit... Hein, c'est en fait la chair et l'esprit. La chair, c'est une manière de vivre le corps.
Oui, alors vous dites bien ça, hein, que voilà. le corps, il peut être terrestre ou céleste, voilà. D'ailleurs. Ce qui est important, c'est l'éclat.
C'est l'éclat, c'est la manière, si vous voulez. Ce qui est important dans le corps, c'est la manière dont je suis en relation avec Dieu. Si je prends mon ventre pour Dieu, comme dit saint Paul, je vis selon la chair, mais je vis mon corps selon la chair. Et si je suis ouvert à Dieu, je vis selon l'esprit, mais je vis mon corps selon l'esprit. Alors vous comprenez, ce qui est important, le premier point à bien comprendre, c'est que la chair et l'esprit, c'est des manières d'être du corps. Et puis après, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à laquelle vous faites allusion, eh bien, saint Paul dit, autre est l'éclat des poissons, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des corps ressuscités. Quel est le propre d'un corps ressuscité ? C'est qu'il se manifeste. C'est le corps glorieux. Et il se manifeste dans quoi ? Pas simplement dans son organicité, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire, je ne vais pas forcément reconnaître celui que j'aime ou que j'ai aimé le jour de ma résurrection, je prends le cas de mon épouse, par exemple, en disant, tiens, c'est bien elle, je la reconnais.
Elle a la même coupe de
elle
cheveux.
Elle a la même coupe de cheveux, non, non. Comment je la reconnais aujourd'hui, mon épouse ? Ou mon enfant ? Ou mes parents ? Ou mes amis ? Je les reconnais, certes, à leur plasticité, mais je les reconnais aussi à la manière d'habiter leur corps. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le vécu en phénoménologie.
Et vous dites que justement, les amis de Jésus, c'est là-dessus qu'ils vont le reconnaître. C'est à la fraction du pain et c'est aux paroles qu'il va prononcer.
Exactement. Si vous voulez, ils sont au bord d'un lac. Et puis, ils sont plusieurs là dans cette barque. Puis tout d'un coup, il y en a deux qui sautent et qui disent « Ah, c'est Jésus, je l'ai reconnu ». Mais pourquoi il y en a qui le reconnaissent et il y en a qui ne le reconnaissent pas? Eh bien, parce qu'on ne le reconnaît pas à son être seulement. On le reconnaît à sa manière d'être, à sa manière de parler. Ils le reconnaissent à sa manière de manger du poisson. La question de savoir s'il a vraiment mangé du poisson, avec toutes les conséquences qui s'en suivent quand on mange dans son corps et qu'on est un corps ressuscité, c'est une question que Thomas d'Aquin évacue en disant « Écoutez, la question n'est pas de savoir s'il mange vraiment du poisson. » J'ai pas dit que c'était pas un vrai corps. Mais la question, c'est de savoir qu'ils l'ont reconnu à sa manière de manger. Alors ce point est capital. Hein. Marie-Madeleine, c'est la même chose. Marie-Madeleine qui arrive devant le jardinier, le Christ, il lui dit « Dis-moi où est son corps et j'irai le prendre. » Elle lui répond, Rabouni qui veut dire maître, elle le reconnaît à sa voix. Si vous voulez, de même qu'aujourd'hui nous nous reconnaissons, parce que Merleau-Ponty appelle le style la manière d'être de notre corps, et c'est pour ça que nous nous aimons.
C'est pour la spécificité, l'originalité, la note unique de chacun.
Exactement.
En fait.
C'est-à-dire quelqu'un d'apparemment laid peut être profondément beau, aimé et aimable. Et c'est ça, je crois, la résurrection. Et il faut bien comprendre que le corps n'est pas simplement le corps organique, même s'il l'est. Mais le corps, c'est aussi la manière de vivre son corps. Et je crois que tous les récits d'apparition que j'analyse d'ailleurs dans le Triduum philosophique, dans Métamorphose de la finitude, tous les récits d'apparition nous font voir que Marie-Madeleine reconnaît le Christ à sa manière d'être alors qu'il est en jardinier. Les disciples reconnaissent le Christ à sa manière de manger alors qu'il est là avec eux sur la plage. Et même Thomas l'apôtre reconnaît le Christ non pas simplement en mettant sa main dans son côté, puisque d'ailleurs rien ne dit qu'il l'ait mise, mais il le reconnaît en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, Thomas, pourquoi as-tu douté ?» Donc d'une certaine manière, si vous voulez, de même que nous vivons aujourd'hui de la rencontre de nos vécus, de même nous vivrons demain de la rencontre de nos vécus dans un corps transfiguré.
Merci à vous, nous poursuivrons demain, Emmanuel Falk.